This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio 10. France Inter. Le 18-20.
Avec un jour dans le monde qui s'interrompra peut-être en cas d'annonce du gouvernement d'ici 19h. D'ici là, justement, le programme ailleurs dans le monde. Michael Thébault en République centrafricaine et à Bruxelles ce soir. Un jour dans le monde numérique avec un nouveau métier, le techplomate, le code source également de l'intelligence artificielle de Google. Les explications tout à l'heure de Julien Baldacchino. 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde sur l'Arabie Saoudite. Mais tout de suite, on va parler de l'avenir des supermarchés.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le géant du numérique Amazon a donc déboursé 13 milliards 700 millions de dollars pour s'offrir l'enseigne de supermarchés bio Whole Foods, 430 magasins en dur, principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Grande-Bretagne. C'est un mouvement important de la part d'Amazon, entreprise pionnière dans la logistique et la livraison à domicile, qui a redéfini chaque secteur qu'elle a approché. Alors après la musique, le cinéma, la presse, les transports, l'alimentation sera-t-elle le prochain secteur à se trouver bouleversé par le numérique ? Michel-Édouard Leclerc, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes PDG des enseignes Leclerc. Merci d'être au micro de France Inter pour parler de ce mouvement industriel assez stupéfiant. C'est un événement au sens propre pour votre secteur.
Oui, c'est la confirmation d'une révolution. D'abord, les sommes en jeu, 13 milliards, c'est colossal. 13 milliards en plus, comme vous l'avez dit, sur le bio. Donc c'est une tendance. Et à rapprocher d'ailleurs de l'investissement à peu près du même montant de Danone aux États-Unis, qui a racheté le plus grand fabricant de yaourts bio aux États-Unis. Oui, c'est trois confirmations. Mmh. C'est la confirmation qu'on est bien dans une révolution technologique. Et à l'heure où en France on continue à opposer les grandes surfaces au petit commerce, etc., il est temps de sortir du village et de voir ce qui s'annonce. Et ça annonce de nouveaux acteurs avec une puissance mondiale. La deuxième chose, c'est quand même un acteur du numérique qui achète du dur, qui achète des magasins. Donc ça veut bien dire que même Amazon, quand il nous disait c'est fini les hyper, en fait c'était du bluff. Hein. Et la troisième chose, c'est qu'il achète du haut de gamme, il achète ce qui correspond, en tout cas, il achète de l'image, mais il achète un réseau qui correspond aux nouvelles demandes de la société. À côté de la révolution technologique, il y a véritablement la révolution de l'alimentation qui tire vers le haut. Et ça, c'est aussi c'est autre chose que simplement de la publicité.
Comment décririez-vous cette chaîne de magasins Whole Foods qui n'existe pas en France ?
Ben, ce serait une chaîne de Lafayette Gourmet, ce serait une chaîne de la grande épicerie. C'est du Monoprix en plus grand, donc c'est assez cher. C'est pour un public à fort pouvoir d'achat, mais c'est aussi une offre qui est très précurseur, des nouvelles filières plus courtes. C'est une offre
bio,
agriculture raisonnée. Aux États-Unis, on appelle un peu tout bio, hein, naturel. Et donc c'est très New York. Quand même, c'est très
urbain.
Urbain, voilà, c'est très urbain. Mais enfin, quand même, il y a des investisseurs. On voit la marque Amazon, mais ce sont quand même des investisseurs qui ont mis leur argent, 13 milliards, sur une chaîne de magasins qu'on disait pas si prospère que ça. Ça veut bien dire qu'Amazon aujourd'hui va vers le multicanal, c'est-à-dire qu'il y a du numérique, bien évidemment, sur lequel il est roi et qui nous fascine tous, mais aussi il revient vers nous, il revient vers les métiers de l'épicerie, il revient vers aussi une enseigne qui fait sens. Je pense que derrière tout ça, Amazon, après avoir un peu bluffé tout le monde en disant « je vous livrerai par drone en 24 heures », etc., il dit quoi dans cet investissement ? Il dit « je vais peut-être vous retrouver dans des bons magasins ».
Vous pensez que c'est ça ? Amazon cherche ça, des magasins physiques, des clients en réel.
Oui, moi
vraiment.
Je pense que il y aura à l'échelle pour l'alimentation. Je pense que le public ne se fera pas que de se contenter d'être livré. Dès qu'on est sur du qualitatif, de la fraîcheur, dès qu'on est sur du service, le traiteur, les plats cuisinés, tout ça, il faut le showroom, il faut le magasin de démonstration. Et le succès aussi de formules, le renouveau des magasins d'alimentation un peu partout dans l'Europe occidentale et aux États-Unis témoigne de ce que le consommateur, il veut voir comment se traduit dans l'offre son exigence nouvelle.
Amazon, c'est quoi pour vous, Michel-Édouard Leclerc, dans ce mariage-là? Parce que Amazon existe évidemment en France, mais a une puissance incomparable aux États-Unis. C'est quasiment un autre monde. Ils apportent quoi à votre métier?
L'accessibilité. Je pense que par la technologie, ils arrivent là où en France, tous les élus, les aménageurs ne parlent que de proximité. Lui, Amazon, dit « Où que je sois, je vous livre ». Et donc, ça correspond bien à une attente aujourd'hui d'une société un peu Twitter, qui veut tout dans l'instant, qui veut tout, quel que soit son pouvoir d'achat, d'ailleurs on veut tout. Hein. Et Amazon, c'est cette révolution d'une technologie capable d'avoir un service extraordinaire. En même temps, vous voyez, s'il suffisait d'être quelqu'un qui maîtrise la technologie, il arriverait à percer sur l'alimentaire comme ça aussi. On voit que non. Il y a un service Amazon Premium à Paris, dans les grands milieux urbains, fort pouvoir d'achat, mais ils ont besoin des magasins. Et nous, ça nous arrange aussi, parce que Amazon, ça va devenir mon premier concurrent. Amazon, ça va être le premier concurrent de Carrefour. Il y aura Leclerc, il y aura Leclerc.com, mais il y aura Amazon. C'est un changement de dimension dans la concurrence. Nous, on part du magasin physique, on parle de l'épicerie créée par mes parents, etc. Et on va vers Internet. En 2020, on fera 10% de notre chiffre d'affaires à partir du net. Et eux font le chemin inverse. Ils viennent du numérique, mais ils viennent vers le magasin physique.
Ils peuvent apporter un savoir-faire unique en termes de logistique, même si vous aussi, vous connaissez la logistique, évidemment. Mais leur logistique, leurs entrepôts, leur capacité de livraison, effectivement, partout et à très faible coût, justement. Est-ce que ça, c'est un virage qu'ils ont su négocier, que vous, entre guillemets, avez mis plus de temps à appréhender?
Oui, je pense qu'ils ont été précurseurs, un peu comme Leclerc était précurseur sur les circuits courts, comme Carrefour avait innové sur les hypermarchés. Donc c'est un nouveau concurrent. C'est entre nous, c'est la preuve aussi dans la perspective en France, c'est la preuve qu'on peut encore rentrer sur ce marché et que tout le discours sur quatre centrales d'achat, c'est du pipeau. Parce qu'on parle d'Amazon, il est symbolique, mais derrière, il y a Alibaba, il y a Cdiscount, il y a VentePrivée.com. C'est ça la révolution, c'est des nouveaux acteurs, une distribution plurielle. Alors là-dedans, quand même, si vous me permettez de tirer la chaise à moi,
bien sûr.
Vous voyez, Amazon, ça ne suffisait pas pour en faire un acteur alimentaire. Parce que Amazon, c'est un grand du data, c'est un grand de l'information, du marketing, etc. Mais Amazon, ce n'est pas une marque qui fait sens. Ce n'est pas une marque qui dit « j'ai les meilleurs vins ». Ce n'est pas une marque. Et donc, ils s'achètent très cher une enseigne aux États-Unis qui fait sens, qui dit bio, meilleure qualité, etc. Ce que ne dit pas son service actuel, la rapidité, les 24 heures, etc.
Est-ce qu'il prend, on va encore dire un mot des États-Unis avant de revenir en France, est-ce qu'à votre avis, Amazon prend de vitesse les grands acteurs de la distribution en Amérique, là?
Oui, il a pris de vitesse. Il a pris de vitesse, mais en même temps, c'est comme tout pionnier. À partir du moment où il démontre qu'il y a un marché et qu'on peut le prendre comme ça, il a plein de concurrents qui sont en train d'émerger, soit sous forme de start-up, soit tout simplement des aussi gros que lui nés en Asie, des Alibaba et autres, qui travaillent sur un marché de 1 milliard, 1 milliard et demi d'habitants. Et donc, ça y est, c'est parti. Le pionnier rattrape. Il y a un effet d'imitation très, très rapide. Mais simplement, nous regardons ça fascinés comme devant un boa, mais le boa arrive en France. Vous avez aussi Costco qui va arriver en France, qui a une autre formule de distribution. Et moi, je regarde ça comme j'ai vécu toute l'histoire de la distribution depuis tout jeuneau quand j'accompagnais mes parents. Carrefour, ça a été une révolution à Sainte-Geneviève-des-Bois avec un parking à l'extérieur des villes et tout ça. Mais c'est une révolution de même nature, peut-être même plus brutale. Et donc, il faut s'y préparer. En tout cas, c'est un challenge.
Vous pensez qu'à court terme, un Amazon ou un géant du numérique pourrait s'implanter en France et racheter une chaîne?
Oui, bien sûr. Oui. Il y a des chaînes qui sont à vendre. Et puis, ça dépendra du prix. Oui. Tout est à vendre. Enfin, j'en fais pas ma devise, mais objectivement, tout est à vendre sur un marché, y compris des enseignes de distribution, pour qui met le prix.
Donc, il n'y a pas de voix française de la grande distribution. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de marques, mais le modèle français peut être, du jour au lendemain, devenir l'une des branches du modèle Amazon.
Ça, j'y crois pas trop. Non, en fait, il y a plusieurs modèles de distribution. La France, c'est leader dans l'hypermarché. On n'est jamais très fort pour dire son contentement de nos réussites. Mais pour pas parler de Leclerc, Carrefour est quand même très, très grand de l'international. Auchan est numéro un en Chine. Enfin, quand on sait d'où on vient, d'où part la famille Mulliez, etc. Mmh. C'est une saga extraordinaire. Auchan, je pense, est devenu numéro un en Russie. Hein, et c'est grâce à eux que les industriels français ont pu pénétrer ces marchés-là par la connivence, par la langue, etc. Mmh. Simplement, aujourd'hui, on va devenir Carrefour.com, Auchan.com, Leclerc.com, Intermarché.com. Et donc, la nature des formes de distribution va complètement changer. Mais la bonne réponse, Amazon va s'adapter à nous. Et il va être obligé de s'adapter à nous. Il n'y a aucune enseigne américaine qui n'a réussi à pénétrer le marché français à faire des prix bas. Mmh. Hein, jamais. Même les Anglais, et puis vous avez vu, même Metro, il n'y en a pas tant que ça. Tesco a fait des allers-retours. Il n'y a que Ikea qui a une très belle aventure en France. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi des formules différentes. Par exemple, les AMAP. Les AMAP, vous savez, c'est les consommateurs qui vont directement parler avec des producteurs qu'ils ont choisis, qui précommandent, voire qui font élever des vaches pour eux, etc. Donc ça aussi, c'est une formule qui se développe très, très vite. Donc la France est en train de se mettre au diapason d'une distribution plurielle et très concurrentielle.
Mais une chose est d'être une marque qui a un site internet, et l'autre d'être une branche, un secteur d'activité d'un monstre numérique. C'est quand même deux choses très différentes.
Bah, ce qui fait la différence, c'est quand même la capacité à être marchand et la capacité... Si évidemment, il suffisait d'être bon dans la technologie, ça fait longtemps qu'il n'y aurait pas eu Leclerc, Carrefour, etc. Mais oserais-je vous dire, parce que vous avez fait la comparaison avec votre propre secteur, qu'est-ce qui fait que France Inter reste ou France Culture ou sur le marché de l'audience, de l'information par rapport à Internet? C'est que vous avez du fond, c'est que vous revendiquez un contenu, la voix France Inter, etc. Et Amazon doit trouver ça aussi. C'est pas parce que vous avez la logistique. Rappelez-vous, la vente par correspondance en France, c'était La Redoute, Les Trois Suisses, Quel. On avait tous des catalogues d'abord dans le salon, après dans les toilettes. Hein, on aurait pu penser que ce sont ces enseignes-là qui allaient gagner la bataille de l'Internet. Ouais. Et pas du tout. Puis rappelez-vous aussi, sur les Champs-Élysées, on avait des boîtes extrêmement modernes. Virgin, c'était donner des leçons aux disquaires. Hein. Aujourd'hui, le dernier disquaire, il est dans les romans de Virginie Despentes. Hein. Surcouf, vous vous rappelez de cette enseigne, hein, c'était pourtant dans le multimédia, ils n'ont pas résisté là à Internet. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'avoir la technologie, il faut avoir aussi une marque qui fasse sens pour les consommateurs, qui prouve son utilité sociale, et c'est là où les enseignes françaises attendent Amazon au tournant.
On sait qu'Amazon, Michel-Édouard Leclerc, quand Amazon commence à regarder un secteur, en général les prix baissent drastiquement et les métiers quasiment sont transformés. On a pu le voir pour le livre, pour la musique et puis pour tous les autres secteurs d'activité d'Amazon. Ça pourrait être quoi l'impact d'Amazon distributeur, grand distributeur? C'est quoi, des prix encore plus bas, d'autres manières de faire des courses? Je ne sais pas, je trouve que c'est un continent là qui est en train d'être défriché.
Eh bien vous voyez, on va surfer sur l'actualité avec des assises de l'alimentation. Moi j'ai hâte qu'Amazon arrive pour prouver aux députés, pour montrer aux députés que c'était quand même vachement bien du temps au Carrefour, au Champ, Système U, acheté aux producteurs français. Parce que alors pour le coup, Amazon c'est une logique d'approvisionnement très low cost, c'est appel d'offres mondiaux, appel d'offres on ne connaît pas notre bonheur aujourd'hui. J'attendais, je nuance, le bonheur ne fait peut-être pas la richesse des uns et des autres. Mais demain, ça va être vraiment un turnover extraordinaire. Donc j'ai hâte que Amazon arrive pour ne pas avoir à argumenter sur nos prix d'achat.
Ça fait quoi, Michel-Édouard Leclerc, de se dire qu'on est le prochain sur la liste de l'ubérisation et de la disruption, comme on dit? Vous allez vous faire uberiser, là, vous?
Ou je vais uberiser.
Oui, peut-être, mais...
Peut-être. Mais oui, Nicolas, moi, j'ai pas l'intention de... le bon breton que je suis, aux marges du CAC 40 et dans nos Californies de l'Ouest, on attend la concurrence et on va relever le défi. Et je pense qu'on sera meilleur.
Vraiment?
Non, mais sincère. Moi, à 65 ans, j'ai rien à prouver. Je pourrais partir à la retraite, etc. Et en fait, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'amener une troisième génération de coopérateurs du mouvement Leclerc en compétition avec Amazon. Etc. Et on sera meilleur sur le service parce qu'on investit aujourd'hui sur la formation des métiers. Parce qu'aussi, il y a une exigence aujourd'hui qualitative. Je pense qu'on peut la livrer moins cher que Whole Foods, que j'adore aller chez Lafayette Gourmet. gourmet ou à la grande épicerie. Mais enfin, bon, c'est pas donné au pouvoir d'achat de tout le monde. Mais moi, je voudrais que le bio soit démocratisé. Je voudrais que, et on va le faire. Mon objectif à moi, par rapport à l'arrivée d'Amazon, c'est d'amener le mouvement Leclerc sur le podium des top 3, des mieux-disants en matière de développement durable, dès 2020, hein, en matière de nutrition et autres. Et pour ça, j'attends beaucoup des assises de l'alimentation. Et j'espère que Nicolas Hulot et le ministre de la Santé vont aussi, et pas simplement laisser les corporations se déchirer, agriculture, industrie, distribution. Il faut qu'on élève le débat et puis qu'on porte le modèle culinaire français, le modèle nutritionnel français en leadership du modèle européen.
Une dernière question, non pas de divination mais de calendrier. Vous voyez ça à quel terme, l'arrivée d'Amazon en France sur votre métier, sur l'alimentation, la livraison du frais?
L'année prochaine.
Bah
oui, ils sont déjà en train. Mais
là, c'est rodé à bas bruit et de manière, je pense pas que vous ayez peur de la concurrence sur la livraison de tomates par Amazon aujourd'hui.
Non, mais
l'année prochaine,
je crois pas trahir un secret pour vous dire que même ils sollicitent les distributeurs en place, y compris nous, parce que vous savez qu'Amazon, ce n'est pas un distributeur au sens classique, c'est une plateforme, c'est-à-dire qu'il propose à des marques de distribution, à des enseignes, de venir sur sa plateforme numérique, et lui, il prélève sa commission derrière. Il y a très peu de produits sélectionnés par Amazon lui-même. Et donc, moi, je me dis que s'il y a des gens qui sont prêts à aller sur ce modèle, alors qu'Amazon leur prélève, je dis ça sans trop savoir, 8%, 10% parce que personne n'a négocié, ben je me dis que je devrais pouvoir le faire aussi. Et peut-être moins cher, mais là je ne veux pas faire de la publicité.
Mais donc c'est en cours?
Oui, c'est en cours.
De négociation?
Ou
de finalisation?
Amazon est en train de chercher son modèle pour prendre Paris. Parce que Paris, pour lui, c'est quand même... Paris, la France, c'est quand même un symbole très fort de la qualité nutritionnelle. Nous, on est tout le temps en autoflagellation, on est dans le food bashing, on n'arrête pas de dénoncer ce qu'on bouffe. Mais vu des États-Unis, on ne se rend pas compte que Paris, c'est quand même un super modèle de qualité de vie. Mmh. Et donc, si Amazon pouvait pénétrer le marché parisien, il y verrait un coup de pub mondial. Il n'y a pas que l'industrie du luxe qui intéresse à Paris. Il y a justement toutes nos traditions culinaires. Donc la question est de savoir si on est capable de mieux faire qu'Amazon. Chiche, vous verrez.
Ou pas. Et ce sera trop tard et dommage. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc, PDG des enseignes Leclerc. On va donc reparler ici en France bientôt de ces nouveaux désirs d'Amazon.
C'est une vraie révolution.
Oui, je crois. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'en parler. C'est vraiment quelque chose de nature comparable à ce qui s'est passé dans la musique ou à une échelle plus restreinte dans la presse.
Oui, tout à fait.
La numérisation. Merci. La suite d'Un jour dans le monde dans quelques instants.
Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind.
clock says it's time to close now. I know I have to go.
Soul Kitchen, les Doors sur Inter.
24 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
18h40, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Direction ce soir la République centrafricaine, Michael, la RCA, où les affrontements entre factions rivales pourraient avoir fait plus de 100 morts dans la seule ville de Bria.
Et Bria, dite la scintillante pour l'incroyable richesse de ses sous-sols en diamant. Petite ville située à 450 km de Bangui, la capitale, et ville sous la coupe de groupes armés depuis 10 ans déjà, car contrôler la région, c'est contrôler bien sûr l'exploitation des mines de diamants et d'or. D'où cette véritable guerre entre factions, combats qui se sont intensifiés ces derniers mois et surtout ces derniers jours, malgré la signature lundi à Rome d'un accord de cessez-le-feu immédiat, accord accepté par les représentants du gouvernement centrafricain et des 14 groupes armés du pays, deux factions principales, les anciens rebelles de la Seleka, majoritairement musulmans, et les miliciens anti-Balaka, majoritairement chrétiens, et au milieu, quasi impuissantes, les troupes onusiennes de la MINUSCA, civiles évidemment prises en étau, plus de 100 000 déplacés rien qu'au mois de mai. Bonsoir Saber Jendoubi, correspondant de France Inter à Bangui et sur place à Bria.
Bonsoir Michael.
Alors dans ce contexte très tendu, Saber, c'est un calme précaire qui règne, mais dans une ville quasi déserte.
Eh bien oui, Bria, c'est une ville fantôme, accablée par la chaleur, entourée par la brousse. D'habitude, des hommes armés rôdent dans les rues désertes, mais pas aujourd'hui, ce qui rassure presque Jafet, humanitaire centrafricain.
Et nous sommes au niveau du centre-ville, comme vous voyez. La ville est presque vide, tout est fermé, ils sont cachés. Habituellement, c'est à cet endroit, quand nous arrivons ici, nous les voyons. Mais cela ne va pas manquer. Tout à l'heure, nous allons voir un de ces bandits-là. C'est comme ça que je les appelle. Non, eux, dès que vous les voyez, ils ont des cheveux crépus, sales, et puis avec des armes, et ils portent des uniformes militaires, bien sûr, mais avec des cheveux crépus, touffus et crépus. Ils sont faciles à repérer.
Et pourtant, ces bandits ont commis des dizaines d'exactions depuis la mi-mai et ont contraint la population à quitter leur maison, une population entassée dans des camps aujourd'hui, des camps protégés par les casques bleus. En tout, 42 000 personnes sur les 50 000 habitants de Bria sont réparties dans les 6 camps de la ville. C'est le cas d'Hippolyte, la trentaine, avec sa famille, il a fui les dernières violences sans un sou en poche.
C'est très catastrophique. Ils ont tué des mamans. Ils ont brûlé des maisons, ils ont pillé tout notre bien.
Ouais, contrainte à l'exil, terrorisée, la population n'a d'autre choix que de s'entasser dans des camps. Et même pour certains déplacés, un refuge plus qu'étonnant, un cimetière, Saber.
Eh bien oui, dans le plus grand camp de la ville de Bria, pour être plus précis, situé à l'est de cette localité, accolé à la base de la MINUSCA. Ici, 25 000 personnes s'entassent les uns sur les autres, et notamment dans un coin de ce camp, la population a construit des abris entre chaque tombe, ce que déplore Faustin, jeune humanitaire.
Là, présentement, nous sommes dans le cimetière de la ville de Bria, où les gens ont quitté leur quartier pour se réfugier sur cette cimetière. Ça n'y va pas, parce qu'on ne peut jamais mélanger le cimetière où on enterre les cadavres avec les gens qui sont en bon état. Présentement, notre souci, c'est de voir si est-ce que ces gens-là, ils risqueraient fort bien d'attraper de certaines maladies que nous-mêmes, nous connaissons les causes.
Rencontre avec Léon, désormais la soixantaine. Lui aussi a tout perdu. Il a dû abandonner ses pantalons, ses chemises et ses diplômes. Pour lui, il est hors de question de mettre un pied à l'extérieur du camp, sous peine d'être décapité, dit-il, malgré des conditions de vie déplorables.
Chaque chef de famille n'a que 3 mètres carrés pour construire son abri. Une seule latrine pour 1000 habitants. Et cette situation nous expose à la maladie. On peut être 4 dans la même latrine. C'est du jamais vu. Et les enfants défèquent sur le sol. On doit nettoyer tout le temps pour éviter les maladies. Le pire, les cadavres pourrissent dans nos puits. Mais on doit boire, alors on fait bouillir l'eau très longtemps.
Ouais, voilà, situation absolument catastrophique, on l'a bien compris. Et colère, j'imagine, généralisée.
Exactement, il y a une fatigue générale qui se transforme peu à peu en colère. En outre, tout le monde semble avoir peur de tout le monde. La MINUSCA a peur des hommes armés, les hommes armés ont peur de la MINUSCA. Bref, la population vit dans un état de psychose. Comme Hippolyte, ce jeune déplacé, il est agacé par l'impuissance des autorités.
Mais vraiment, le gouvernement là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment ou quoi? Là, c'est quel gouvernement ça? Vraiment, il faut rien. Le MINUSCA, il faut rien. Il n'y a plus de MINUSCA ici, là. Même pas MINUSCA ici, qu'allons-nous faire? On a exposé.
Et même le député de la circonscription de Bria, Arsène Kongbo, semble empêtré dans des discours ressassés, ou peut-être est-ce dû au désarroi.
C'est la paix que nous voulons. Parce que si vous essayez de bien voir, presque la totalité de ce pays est entre les mains des rebelles. Et ce n'est pas normal. Ce qui fait que le développement de ce pays va toujours en reculant. Nous demandons aux belligérants de déposer leurs armes afin que le redéploiement de l'État puisse se faire et que le développement de nos préfectures puisse aller de l'avant.
Le gouvernement paraît démuni, la présidence ne semble pas réussir à s'imposer, ni la force onusienne à s'interposer, même si la MINUSCA vient de promettre plus de robustesse et de réactivité contre les groupes armés. On verra si elle tient parole. En tout cas, la situation suscite toujours autant d'inquiétudes. La violence gagne du terrain dans l'est du territoire, car la Centrafrique, en dépit des déclarations et des volontés de développement, reste un pays qui continue de s'enfoncer inexorablement dans une guerre.
Saber Gendoubi, correspondant de France Inter à Bangui, est donc ce soir à Bria. Merci Saber.
Et comme chaque mercredi, Michael, direction maintenant Bruxelles.
Et oui, pour ces petites ou grandes infos européennes qui échappent au radar médiatique, mais pas à Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Bonsoir mon cher Quentin.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors ce soir, vous avez eu envie de nous parler des élites européennes à travers cette étude plutôt inquiétante, hein, Quentin. Étude qui conclut à un fossé grandissant en Europe entre la population en général et les élites du continent.
Oui, et entendons-nous en effet d'abord sur ce qui constitue l'élite selon le très sérieux centre de recherche britannique Chatham House. Il s'agit d'individus dont l'influence se fait sentir dans ou par le biais des milieux politiques, économiques, de la société civile et aussi, oui, des médias. Alors vous choisirez vous-même, messieurs, la case que vous voulez cocher.
Alors qu'y a-t-il, pour être très concret, de si préoccupant dans les conclusions de l'étude ?
Mais ce sont d'abord les écarts particulièrement tranchés entre élite et public au sujet des pouvoirs des institutions de l'Union européenne. Les élites sont 37% à appeler de leur vœu une extension de ces pouvoirs, alors que le public est vent debout contre à hauteur de plus de 40%. De même, plus de la moitié des sondés des élites voient essentiellement des avantages économiques et culturels dans l'immigration, alors que la même proportion exactement de sondés du public soutient exactement le contraire. Autre exemple, près de 7 membres de l'élite sur 10 se disent fiers d'être citoyens européens, sentiment partagé par moins de 2 sur 10 au sein de la population générale. Enfin, le sentiment d'avoir personnellement bénéficié de la qualité de ressortissant d'un pays membre de l'UE souligne la largeur du fossé. 37% des élitaires en sont persuadés contre 9% seulement de la population générale.
Enfin, on imagine que ces élites ne sont pas toutes soudées et unanimes sur tous les sujets ?
Non, en effet. Ainsi, sur la perspective, par exemple, d'une évolution de l'Union européenne vers une espèce d'États-Unis d'Europe, les gens d'en haut sont partagés moitié-moitié exactement. Eh bien, on appellera cela le débat démocratique, un peu malgré tout réservé aux personnes formées et informées.
Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Merci.
Et pour finir, Michael, cette question, comment faisait-on avant Tinder ?
Tinder, Mythique, Attractive World ou encore International Cupid, le leader américain des sites de rencontres. Comment faisait-on, Nicolas, pour flirter, draguer, rencontrer quelqu'un sans tous ces sites ? Question, il faut bien le dire, que se posent surtout les Américains. Un tiers des couples mariés depuis 2005 aux États-Unis se sont rencontrés sur Internet. Le web plus fort que le bar, le bureau ou l'église, disait récemment un éditorialiste du New York Times. Et bien depuis quelques jours, c'est pourtant une drague à la papa et même à la grand-papa qui enflamme Twitter aux États-Unis. Un chercheur d'Oxford, Mark Rother, a posté une annonce extraite d'un journal de 1865, texte écrit par un jeune homme de 18 ans, originaire du Maine. Je vous livre l'annonce telle qu'elle. « J'ai 18 ans, j'ai de bonnes dents, je crois en Andy Johnson, à la bannière étoilée de notre pays au 4 juillet. J'ai nettoyé 18 acres cette année, j'ai j'ai semé plus de 10 acres, mon blé noir est de première classe, l'avoine et les patates donnent bien, j'ai 9 moutons, un taureau de 2 ans et 2 génisses, ainsi qu'une maison et une grange, je veux me marier, je veux acheter du beurre, du pain, des robes à volant et une fontaine pour une personne de la gente féminine, et ce pour la vie, c'est tout ce qui m'importe, mais je ne sais pas comment y arriver. » Et depuis lundi, rien qu'aux États-Unis, cette annonce a été retweetée plusieurs centaines de milliers de fois. Des milliers d'Américains tentent de retracer l'histoire de ce jeune homme, de sa descendance éventuelle. Et pluie de tweets féminins sur le mode « Moi je l'épouserai volontiers, la galanterie n'existe plus » ou encore « Mais quelle maturité, à 18 ans, on ne voit plus ça en 2017 ». Mais l'annonce de 1865 fait aussi forcément des jaloux. Quelques tweets « J'ai 39 ans et je n'ai même pas un seul bouton. Ce mec est plus riche à 18 ans qu'on ne le sera jamais », ou encore ce dernier tweet, si maintenant il faut une génisse pour draguer, je suis pas prêt d'être en couple. À demain.
Michael Thébault, à demain.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique, bonjour Julien Baldacchino.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Votre tour du monde de l'actualité numérique, Julien, commence cette semaine au Danemark avec la naissance d'un nouveau métier.
Et on l'appellera techplomate. Pour le résumer simplement, il s'agit d'un diplomate qui va être chargé de dialoguer au nom du Danemark, non pas avec d'autres États, mais avec les géants du web. À partir de septembre, il y aura donc un ambassadeur du Danemark sur la côte ouest américaine, bien loin de Washington, mais tout près de Google, Apple et Facebook, avec qui il sera en contact permanent. Et c'est l'actuel ambassadeur en Indonésie, Kasper Kling, qui assurera cette fonction avec un objectif: mieux anticiper les bouleversements d'une société où ces grandes entreprises ont, je cite, une plus grande influence sur nos vies que la plupart des nations, selon ce nouvel ambassadeur. Exemple donné par le site Numérama en termes de PIB, le Danemark pèse 310 milliards de dollars, là où le chiffre d'affaires de Facebook est de 437 milliards. La tâche s'annonce donc ardue pour Kasper Kling, d'autant plus que c'est aussi lui qui sera chargé de transmettre toutes les demandes de déchiffrage d'informations sur des terroristes présumés. On reste aux côtés des grands géants du web avec la toute dernière annonce de Google, qui a décidé de rendre public le code informatique de son intelligence artificielle capable de reconnaître des éléments dans des images. Une technologie qu'expliquait assez simplement Google dans une vidéo il y a quelques mois.
Le service permet aux développeurs de détecter des éléments à l'intérieur d'une image, des objets de la vie quotidienne, au visage ou au logo de marque.
Tous les développeurs vont donc pouvoir se procurer gratuitement cette technologie pour l'exploiter ou la transformer avec des applications possibles très variées, de la reconnaissance de visage sur une photo, sur une application, au perfectionnement de la reconnaissance de leur environnement par des robots, par exemple. Évidemment, ce n'est pas de la pure philanthropie de la part de Google. Le principe de l'open source, c'est que le code informatique qui est fourni peut être modifié et amélioré puis repartagé. Autrement dit, l'entreprise américaine pourra récupérer un code plus performant sans rien avoir à payer. Direction maintenant le Venezuela, où le bras de fer continue entre le président Nicolas Maduro et les médias américains. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait parlé de la coupure nette de CNN au Venezuela. Cette fois-ci, c'est Twitter qui est dans le viseur du président Maduro.
Je réclame la dénonciation nationale et internationale de l'entreprise Twitter au Venezuela, qui a désactivé aujourd'hui des milliers de comptes de jeunes, de travailleurs, de professionnels, pour le seul motif qu'ils sont chavistes.
Alors l'un des seuls comptes dont il est attesté qu'il a été suspendu ce week-end, c'est celui d'une radio bolivariste, Radio Miraflores. Pour le reste, c'est encore difficile à prouver, d'autant plus que Twitter n'a pas encore commenté ces accusations pour l'instant. Il faut dire qu'au Venezuela, Twitter, c'est l'un des ressorts majeurs des tensions qui opposent les soutiens du régime, les chavistes, aux opposants. La propagande chaviste est relayée par des centaines de comptes. Maduro a d'ailleurs demandé, suite à ces accusations de censure, de redoubler d'activité sur le réseau social. Il y a une dizaine de jours, c'était des opposants et des journalistes qui avaient vu leur compte Twitter piraté et usurpé. Enfin, on termine ce tour du monde au Sri Lanka, où le gouvernement vient de faire adopter une loi qui interdit de prendre un selfie à proximité d'une voie de train. Une pratique qui a l'air d'être un véritable phénomène dans le pays et qui n'est pas sans risque, loin de là. Depuis le début de l'année 2017, il y a eu 28 accidents mortels causés par des selfies à proximité de voies ferrées. La semaine dernière, deux enfants ont été tués ainsi qu'un homme dont l'épouse est quant à elle en réanimation. Le record de morts par selfie reste tenu par l'Inde avec 76 morts en 2 ans.
Julien Baldacchino, merci.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir mon cher Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Révolution de palais en Arabie Saoudite.
Et oui, mercredi 21 juin, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a décidé de propulser son fils, Mohamed Ben Salman, au rang de prince héritier. Il s'agirait d'un saut de génération sans précédent. Le roi est âgé de 81 ans et son fils de 31 ans. Qu'il arrive malheur au roi et son fils pourrait régner pour des dizaines d'années. Alors pour ce faire, le souverain saoudien a écarté son neveu, Mohamed Ben Naïef, qui occupait les fonctions stratégiques de ministre de l'Intérieur, nous rappelle notre correspondant dans l'Orient compliqué, Benjamin Barthes. Bref, c'est tout un système qui de facto disparaît. En Arabie Saoudite, la succession adelphique entre frères qui prévalait jusqu'à ces dernières années, eh bien ce système empêchait de passer à la génération suivante et avait conduit le royaume fondé en 1932 à être géré par des vieillards.
Et l'affaire, Arnaud, doit permettre à l'Arabie Saoudite de se ressaisir.
Et oui, et c'est indispensable. Il faut le savoir, l'Arabie Saoudite ressemble à un géant au pied d'argile, expression éculée, mais parce qu'on est obsédé par ses milliards de pétrodollars, son wahhabisme obscurantiste, les décapitations au sabre, une monarchie absolue, c'est vrai, mais le royaume est plus affaibli qu'il y paraît. D'abord, par son explosion démographique. 4 millions d'habitants en 1960. Eh bien, aujourd'hui, on est à 30 millions. Nicolas, tenez-vous bien, dont 10 millions d'étrangers. L'explosion démographique va continuer d'être dramatique avec 39 millions d'habitants prévus en 2030, 46 en 2050. On ne gère pas un pays aussi peuplé comme on gérait les tribus au début du XXe siècle. L'Arabie Saoudite l'avait compris dès le printemps arabe, d'ailleurs, décidant de gigantesques programmes sociaux pour éviter la révolte populaire. Deuxième sujet, l'Arabie Saoudite est affaiblie par la fin du pétrole. Le royaume a une hantise, déclinée comme l'Espagne du XVIIe siècle, trop enrichie par l'or du Pérou. C'est le projet qu'avait justement lancé le prince Salman, privatisation partielle de l'Aramco, première société mondiale pétrolifère, et reversement des milliards récoltés dans un fonds d'investissement pour préparer l'après-pétrole.
Et puis il y a une inquiétude géopolitique, Arnaud.
Mais oui, l'Arabie a le sentiment d'être encerclée par l'Iran. Alors, par l'Iran, bien sûr, de l'autre côté du Golfe Arabique ou du Golfe Persique, selon le côté dont on se situe, par l'Irak, désormais contrôlé par les chiites, par la Syrie, où les Iraniens soutiennent Bachar el-Assad, par le Liban, avec le puissant Hezbollah, et au Yémen, où sévit une rébellion houthi pro-iranienne. Bref, le géant du désert a moins d'amis que sa richesse et sa surface ne le laisse croire. Le prince héritier Salman a donc lancé, début 2015, une expédition punitive au Yémen, guerre oubliée et cruelle, voire atroce, baptisée tempête décisive. La tempête est tout sauf décisive. D'ailleurs, l'opération a été rebaptisée « Restaurer l'espoir ». L'Arabie s'y embourbe, comme les Américains au Vietnam et les Russes en Afghanistan. Est venu ensuite, en juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien qui a accentué cette angoisse existentielle face aux voisins persans. Enfin, la paranoïa a été amplifiée par la politique de Barack Obama, qui a distendu les liens indéfectibles, scellés en 1945 avec Washington. Alors heureusement, Nicolas, est venu qui ? Ben Donald Trump, qui est allé faire la danse du sabre à Riyad le mois dernier. Le président américain, qui aime tant les dictatures, a mis du baume au cœur des Saoudiens, qualifiant l'Iran d'axe du mal. En réalité, les Saoudiens n'ont pas oublié qu'Obama avait pris ses distances. Sur le long terme, rien n'est sûr pour eux.
Arnaud Le Parmentier, merci. Merci pour cette chronique, cet édito. C'est le dernier que vous ferez dans l'émission au micro d'Inter. Pourquoi vous nous quittez ?
Je vais au pays de Donald Trump, à New York, et donc je suivrai l'économie selon Donald Trump, qui n'est pas toujours très libéral, mais sans doute passionnante.
On vous lira dans le quotidien Le Monde. Merci. Un mot sur le téléphone sonne consacré à cette grosse journée de politique. On attend encore le remaniement ministériel. Ce sera d'une minute à l'autre. Le journal est à suivre.